16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission de speed dating pour personnalités historiques. Chaque après-midi, nous réunissons, vous le savez, trois personnages qui n'auraient jamais dû se croiser car ils sont issus d'époques différentes, un peu comme nous finalement. Bonjour Stéphane Bern.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, ici chaque après-midi, on aime mettre en contact des personnes très différentes et justement c'est le point commun de, non pas trois, mais de nos six personnages du jour qui avancent deux par deux, des couples qui ont remis le couvert. Oui. Ils se sont aimés, mariés, séparés, avant de s'aimer à nouveau et de se remarier.
C'est beau.
C'est ce qui est arrivé aux peintres Frida Kahlo et Diego Rivera, la colombe et l'éléphant, comme ils étaient surnommés, un couple qui fut de tous les combats pendant la Révolution mexicaine, qui a résisté et qui s'est aimé avec tout autant de soubresauts et de fracas que la société dans laquelle ils vivaient. Puis je vous raconte un autre couple mythique, Elizabeth Taylor et Richard Burton, à la vie très cinématographique. Eux aussi se sont aimés un peu, beaucoup, à la folie, et séparés aussi, avant de remettre le couvert. Quant à vous Mathieu, pour une fois, votre côté bling-bling va nous servir, puisque comme vous passez vos vacances à Saint-Tropez, vous étiez cet été aux premières loges pour assister à la reformation d'un couple mythique, mais plus proche de nous dans le temps.
Jennifer Lopez et Ben Affleck, ses fans. Tout s'est passé très vite dans la piscine du Nikki Beach, cette plage de bon goût construite sur un parking de Pamplonne où tu n'as pas accès à la mer mais le mojito est à 37 euros. J-Lo m'aperçoit au bar, eye contact, clin d'œil, elle se lève, se dirige vers moi. Mais là, pas de bol, au dernier moment, Ben Affleck débarque en Bentley Continental GT. Encore une belle occasion de rater pour Bibi, Stéphane.
Oui, alors, eux ne ratent jamais une occasion. Ils sont avec nous comme chaque jour. Ce sont nos chroniqueurs. D'abord, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est une intimité assez chahutée, car c'est celle du roi Dagobert, figurez-vous. Parce que l'autre jour, Mathieu, vous avez tenté de me coller sur les noms des épouses du roi Dagobert. Vous vous souvenez?
Vous aviez réussi, admirablement.
Oui, tout à fait, car je connais fort bien Gamatrude, Nantilde, Vulfégonde, Ragnetude et Bertil, qui sont mes copines. Et oui, Dagobert...
C'est toi aussi que tu cherches un prénom pour ta fille.
C'est vraiment très tendance.
Oh, mais ça reviendra. J'ai vu récemment que Marcel est à la mode pour les petites filles. Hein, donc on n'est pas à l'abri d'une Bertil. Non, mais Gamatrude, c'est joli. En tout cas, Dagobert aimait les femmes. Il avait même un harem. Alors la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'était simplement un chaud lapin ou un mérovingien comme un autre?
Évidemment, c'est un sujet qui excite beaucoup les harems
mérovingiens, caliente.
Alors David remonte à David Castelorpez remonte aux origines d'une invention, d'une création. Et quelle est cette invention?
Aujourd'hui, c'est le super soccer.
Et qui sait, Stéphane, ce que c'est le super soccer?
Non.
Le super soccer, c'est un pistolet à eau.
C'est le champion des pistolets.
C'est le champion des pistolets à eau du début des années 90. Oui, soccer, ça veut dire soccer, ça veut dire détremper en anglais. Donc super soccer, super détrempeur.
C'est le bruit soccer comme.
Et comment dit-on le football alors?
S-O-C-C-E-R. Ça, c'est le foot.
Soccer. Oui, c'est vrai, c'est voisin. C'est voisin.
Mais vous n'avez pas bien mis l'accent. Avec nous. Avec nous également, Olivier Pouls, qui remonte aux origines d'un ustensile ou d'une recette d'un plat d'un mec.
Ben là, j'ai vraiment décidé de coller à la thématique du jour. Ils remettent le couvert, mais moi, le couvert, c'est couteau-fourchette, cher ami.
Vous êtes premier
voilà,
degré.
Exactement. Ouais. Et donc, ben, la fourchette, depuis quand mange-t-on avec une fourchette? Tiens, je me suis posé la question.
Madame
et d'où
de Médicis doit y être pour quelque chose.
Eh bien, pas tellement, figurez-vous. Vous le verrez tout à l'heure.
On dit que c'est Henri III quand il était à Venise, mais en fait, je crois que c'est
tout
plus
ça, ce sont
ça.
Des légendes. Oui, oui,
c'est plus ancien.
Plus ancien que Catherine de Médicis.
Beaucoup
plus ancien.
Faisons ensemble la chronique de.
Faisons-la avant et voyons qui a gagné. Enfin, les amis, il y a deux types de couples, ceux qui remettent le couvert et ceux qui s'envoient les couverts à la gueule. Quelle nouvelle scène de ménage nous réserve Burn to be Alive, le quiz qui oppose Clémentine à Stéphane? Réponse aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, découvrons notre premier couple qui a remis le couvert. Ils se sont connus, ils se sont reconnus, ils se sont aimés, ils se sont séparés et ils se sont retrouvés. Je t'aime comme je te quitte. Stéphane Burn nous raconte un couple mythique qui a remis le couvert, Frida Kahlo et Diego Rivera.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Burn et Mathieu Noël.
Le récit.
Leur première rencontre a tout d'une comédie romantique. Perché sur son échafaudage, le grand peintre muraliste Diego Rivera travaille à décorer l'auditorium de la Escuela Preparatoria, l'école la plus prestigieuse du Mexique. Soudain, les portes claquent. Une jeune élève surgit et dans un froufrou de jupon, elle apostrophe l'artiste. C'est Frida Kahlo. Elle a 20 ans et depuis quelques années, elle peint aussi. La jeune femme n'a pas froid aux yeux. Elle est venue demander l'avis du maître sur ses propres œuvres. Diego Rivera est déjà un peintre reconnu au Mexique et dans le monde entier. Frida le connaît et l'admire depuis longtemps, pour son talent mais aussi parce qu'elle partage avec lui des convictions politiques. Frida est née avec la Révolution mexicaine au point de modifier sa date de naissance de 1907 à 1910 pour la faire correspondre à l'année du soulèvement populaire. Cette année-là, Diego, lui, a marché dans les rues de Mexico et vu de ses propres yeux les paysans défiler aux côtés du leader Emiliano Zapata. Il connaît les révolutionnaires russes, il a même rencontré Staline. Et puis à Paris, il a côtoyé Picasso, Rodin, Modigliani. Pour Frida, qui n'a jamais quitté Mexico, Diego est un géant, presque un héros. Alors, à ses camarades de classe, elle a annoncé la couleur. Elle l'épousera et lui donnera un fils. Rivera est un homme à femme. Il a déjà été marié, a connu des dizaines de maîtresses et a eu quelques enfants. Frida n'est encore qu'une gamine, mais déjà son aura impressionne et envoûte. Elle a quelque chose en plus, un feu qui brûle dans le regard, une force de caractère et un charisme accentué sans doute par une expérience déjà impressionnante de la vie. 4 ans plus tôt, elle a connu un drame, un terrible accident de la route à bord d'un bus dont elle a réchappé par miracle, mais avec de graves séquelles. Le peintre a beau être une célébrité, Frida le traite avec une familiarité et une simplicité désarmantes. Elle l'invite chez elle, à Coyoacán, dans la maison de ses parents, pour lui montrer ses tableaux. Pour elle, Diego Rivera accepte de se plier au jeu de la cour galante à l'ancienne et de demander sa main à son père. Dans l'entourage de la jeune femme, personne ne veut croire à ce mariage, mais Frida est pauvre, sans dot et surtout elle est majeure. Alors le 21 août 1929, les deux parties se retrouvent à l'hôtel de ville de Coyoacán. Frida a 22 ans, elle porte une tenue indienne, une jupe à pois et un châle emprunté à la bonne de ses parents. Elle semble frêle et si jeune aux côtés de cet homme qui a le double de son âge, un énorme ventre et une tête de crapaud. Ce sont les noces d'un éléphant et d'une colombe, raille le père de Frida. Les premiers mois sont pourtant idylliques. Les deux amants s'aiment, peignent et voyagent au gré des contrats de Diego Rivera. Mais le bonheur ne dure qu'un temps. L'année suivante, Frida est victime d'une fausse couche qui la laisse affaiblie et dévastée. Dans l'ombre de Diego, elle souffre et s'enfonce dans la solitude. 2 ans plus tard, à Détroit, elle perd à nouveau un bébé. Frida Kahlo se sauve par la peinture, mais le couple en est durablement affecté. Diego aussi connaît des moments difficiles. À New York, ses fresques commandées par leur richissime famille Rockefeller sont détruites. Au cœur de la ville la plus capitaliste au monde, le peintre avait donné à l'un de ses personnages le visage de Lénine. La provocation ne passe pas. Il est expulsé du chantier par la police et son travail est anéanti, comme lui. Déprimé, Diego Rivera tue le temps et flirte avec ses modèles. Frida est dévorée par la jalousie. Mais la ligne rouge est franchie à leur retour au Mexique lorsque l'artiste débute une liaison avec Christina, la petite sœur de Frida. Comme tous les événements tragiques de sa vie, cette trahison inspire un tableau à Frida Kahlo. Son titre, quelques petites piqûres dont l'euphémisme dit bien tout l'humour grinçant de Frida. Dans cette peinture, l'artiste exprime l'ampleur de sa douleur. Elle s'y représente nue sur un lit, le corps lacéré et baignant dans son sang. À côté d'elle, un homme debout tient un couteau à la main, la chemise maculée. Il ressemble trait pour trait à Diego. L'infidélité est une chose courante pour un homme de cette époque, mais Frida n'est pas prête à tout accepter. Elle est fière et courageuse, alors elle quitte Diego malgré l'immense douleur. Avec Christina, Frida a perdu ce qui lui restait de famille. Elle est seule, si seule, et Diego lui manque terriblement. Elle l'aime encore malgré tout. Après presque une année de séparation subie, le couple se retrouve et tente de recoller les morceaux. Frida connaît aussi des aventures. On lui attribue des relations avec des femmes, la peintre Georgia O'Keeffe ou l'actrice Dolores del Rio. En 1937, Diego et Frida accueillent Léon Trotsky et sa femme en exil et poursuivis par les sbires de Staline. Frida et le révolutionnaire connaissent une courte histoire d'amour. Avec Nicholas Murray, un autre amant photographe, elle s'échappe 3 mois à New York. Frida a-t-elle voulu rendre Diego jaloux? Ça n'a pas fonctionné. Diego se sent enfermé dans cette relation que Frida veut exclusive. Il veut divorcer maintenant. En octobre 1939, après 10 ans de relations passionnelles et chaotiques, la séparation est prononcée. Frida Kahlo, déjà fragile, est brisée. Son état de santé se dégrade. En plus des douleurs et difficultés physiques liées à son accident, elle tombe en dépression. Son ami et médecin, Léo Eloesser, l'enjoint de venir se faire soigner à San Francisco, la ville des États-Unis où depuis quelques semaines réside justement Diego Rivera. Le docteur de Frida Kahlo parle à Diego Rivera. Il lui explique que la séparation a des conséquences terribles sur la santé de la jeune femme. Diego n'a pas vraiment besoin de se laisser convaincre. Frida lui manque énormément. S'il a voulu divorcer, c'était pour retrouver sa totale liberté. Mais il l'aime comme au premier jour. Alors il la persuade de l'épouser à nouveau. Frida accepte. Mais elle pose de curieuses conditions. Qu'il n'ait plus jamais de relations sexuelles. Pour Frida, c'est l'unique méthode radicale pour enrayer la jalousie et les images des amantes de Diego qui l'assaillent lorsqu'il tente de s'approcher d'elle. « J'étais si heureux de retrouver Frida, dit Diego, que je donnais mon accord sur tout. » Et le 8 décembre 1940, jour de mon 54e anniversaire, Frida et moi nous fûmes mariés pour la seconde fois. Les deux artistes ne peuvent se passer l'un de l'autre, sans doute parce qu'en dépit des tourments et des petites mesquineries, ils sont un soutien indéfectible l'un pour l'autre. Une source d'inspiration aussi. Je vous la recommande, non en tant qu'époux, mais comme admirateur enthousiaste de son œuvre, écrit un jour Diego à un critique d'art américain. 10 années ont passé depuis le mariage et la santé de Frida Kahlo s'aggrave. Elle est hospitalisée, opérée de nombreuses fois. Pour la faire rire, Diego fait le pitre, danse autour de son lit. En 1953, il organise au centre de Mexico une grande rétrospective de son œuvre. C'est une belle fête, la dernière de la vie de Frida. Elle est amputée d'une jambe et meurt l'année suivante d'une pneumonie. Diego Rivera disparaît, lui, 3 ans plus tard. Quelques jours avant sa mort, il avait reçu d'une amie commune un poème écrit pour lui par Frida, un poème qu'elle ne lui avait jamais envoyé. Diego, dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma folie, dans mon rêve, dans le papier buvard, dans la pointe de la plume, dans les crayons, dans les paysages, dans la nourriture, dans le métal, dans l'imagination, dans les maladies, dans les vitrines, dans ses ruses, dans ses yeux, dans sa bouche, dans ses mensonges.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du couple Frida Kahlo et Diego Rivera, nous sommes avec l'écrivain et historien de l'art Alain Vircondelet. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour Alain Vircondelet, vous avez publié de nombreuses biographies d'artistes et vous vous êtes également intéressé au couple mythique de l'art dans un ouvrage paru chez Beaux-Arts Éditions. Forcément, quand on pense au couple mythique, Frida Kahlo et Diego Rivera se posent là. Qu'est-ce qui, pour vous, les a rendus mythiques et éternels à la fois ?
D'abord, tout ce que vous avez dit vous-même à l'instant, c'est-à-dire la fusion qui va animer ce couple, la fusion sexuelle aussi, parce que c'est une passion sexuelle très violente. Les monstres sacrés qu'ils étaient déjà à l'époque, car chacun de ces personnages a voulu mettre en scène, médiatiser complètement leur existence. Alors, il y a aussi l'exubérance mexicaine, il y a la volonté de théâtralité des personnages. Voilà, c'est tout cela qui a fait qu'à un moment donné, ce couple est devenu un couple mythique. D'abord parce qu'il a voulu incarner la mexicanité, si j'ose dire. C'est-à-dire cette identité mexicaine qui avait été passablement perturbée par les révolutions successives qui ont eu lieu à cette époque. Et donc, comme le gouvernement de l'époque voulait absolument retrouver cette culture ancienne du pays, et ils ont voulu représenter cette mexicanité. Comme on a parlé de négritude, on peut parler de mexicanité. C'est en ce sens qu'ils sont devenus mythiques et aussi très, je dirais, très aimés du peuple mexicain.
Mais justement, Alain Vircondelet, lorsqu'elle le rencontre, Diego Rivera est connu et reconnu. Frida Kahlo, elle, pas encore. Elle deviendra plus célèbre que lui grâce à ses peintures. Ou ça, c'est une vision un peu déformée de l'histoire ?
Non, déjà, elle commençait à peindre depuis l'accident de 1925. Elle avait un talent qui était absolument extraordinaire. Elle est très très vite devenue une vedette, une star de la peinture. Oui. Et donc tous les deux se sont exaltés mutuellement.
Frida Kahlo et Diego Rivera ont en commun l'amour de la peinture, mais ils partagent aussi les mêmes idées politiques communistes. Ça, c'est ce qui fait qu'ils sont attirés l'un vers l'autre
oui.
et difficilement séparables malgré tout. Au fond, ils menaient le même combat politique.
Oui, ils menaient le même combat politique, mais avec des nuances quand même. Parce que autant Diego Rivera était un radical communiste, alors que Frida Kahlo, elle, avait des nuances qui étaient empruntées au monde chrétien du Mexique. Et donc, elle a toujours traduit dans son œuvre cette piété populaire que Diego Rivera avait essayé d'esquiver justement au bénéfice d'une révolution armée, etc. Alors que Frida Kahlo, elle, a repris les grands motifs de la christianisation du pays et des Amérindiens. Donc il y a quelque chose de plus religieux, si j'ose dire, chez Frida Kahlo qu'on ne voit pas chez Diego Rivera. Mais tous les deux, justement, se complétaient à ce niveau-là. Il y avait à la fois la radicalité politique et communiste, et d'un autre côté, il y avait cette acceptation du sacré que Frida Kahlo a exalté dans toute son œuvre. Mais en même temps, Frida Kahlo, elle avait ce vocabulaire, cette violence révolutionnaire en elle, qu'elle a essayé de transposer davantage dans sa propre personnalité et surtout dans sa propre souffrance.
Alors Alain, ils ont remis le couvert, même si dans les faits, ils le remettent sans consommer. Hein, puisque Stéphane racontait dans le récit que Frida Kahlo accepte de se remettre avec Diego Rivera, mais à condition qu'ils n'aient plus jamais de relations sexuelles ensemble. C'est un drôle de pacte, Stéphane me disait en antenne, se marier avec quelqu'un pour ne pas coucher avec lui, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils ont tenu ce pacte ?
Non, bien sûr que non. Je n'étais pas présent lors de leurs ébats, mais de ce que l'on sait et de ce qu'en disent les biographes de Frida Kahlo, par exemple, non, ils ont eu des relations sexuelles et je pense que plutôt la promesse que Frida Kahlo avait exigée de son mari, c'était surtout qu'il n'ait pas de relations sexuelles avec les autres. Hein. Mais en réalité, Diego Rivera a eu d'autres maîtresses, a été d'une infidélité absolue. Et d'ailleurs, on est très très étonné de voir, parce que c'est un personnage qui était d'une laideur terrible. C'était un peu le Bernardo de Zorro, vous voyez, c'était vraiment...
Mais la laideur attire parfois.
Alors peut-être que la laideur a attiré, mais en tous les cas, effectivement, il a eu énormément de maîtresses et aussi beaucoup d'enfants qu'il a abandonnés et dont il n'a pas assumé du tout la paternité. Et en même temps, c'était tout à fait désespérant pour Frida Kahlo parce que, comme chacun sait, Frida Kahlo ne pouvait plus avoir d'enfants depuis l'accident de bus, puisqu'un tramway de la ville a heurté le bus où elle se trouvait avec son fiancé de l'époque. Elle avait à peine 20 ans. Hein, et donc, elle a subi énormément d'opérations et elle a désiré un enfant avec une violence inouïe de la part de Diego Rivera qu'elle n'a jamais pu avoir avec des accouchements, avec des avortements plutôt, et des fausses couches provoquées qui ont été absolument terribles.
Et la peinture, donc, pour Frida, c'est son exutoire, c'est son médicament après cet accident.
Ah, oui, oui.
C'est ce qui l'aide à tenir.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que son père lui avait acheté du matériel de peinture lorsqu'elle a eu cet accident, dont elle était immobilisée à l'hôpital. Il a placé au-dessus de son lit un miroir et elle a commencé à se peindre en se voyant sur le ciel de lit qu'il lui avait installé.
Chaque événement tragique inspire un tableau à Frida Kahlo. Elle peint notamment une toile intitulée « Quelques petites piqûres » quand elle découvre que Diego Rivera a une liaison avec sa sœur Cristina. Il y a de l'amour ou de la haine dans cette œuvre?
Oui, vous savez, elle a fait 57 autoportraits de Frida Kahlo. 57, c'est presque le même chiffre que Rembrandt. Ils sont les deux dans l'histoire de l'art qui ont fait le plus d'autoportraits. Et effectivement, toute la vie, je dirais que pour un biographe, c'est assez fascinant, parce qu'on peut écrire un livre finalement sur la vie de Frida Kahlo en scandant justement les tableaux qu'elle a fait d'elle. Parce que chacun des tableaux rapporte un événement de sa vie privée. Et effectivement, elle a subi tous les outrages. Hein. Il l'a trompée impunément et il l'a trompée aussi avec sa propre sœur, Cristina. Et évidemment, ça a été pour elle, la fidélité de trop, et c'est là qu'elle a réclamé le divorce. Parce qu'elle était d'une très grande fierté. Hein. D'ailleurs, on le voit physiquement, elle s'est toujours représentée comme une sorte de déesse aztèque. Hein. Elle avait ce visage-là et elle était d'une un peu comme Dora Maar, hein, la maîtresse de Picasso.
Est-ce que la peinture de Frida Kahlo a changé au fil des années? Est-ce que sa santé, ses amours, ses ruptures, elles sont présentes dans son œuvre et elles se traduisent picturalement parlant?
Non, je ne pense pas. Hein. La peinture de Frida Kahlo, elle est toujours dans ce même registre, c'est-à-dire à la fois surréaliste et naïf. Et elle a toujours peint sur ce même mode. Mais peut-être que la peinture a évolué dans un sens de plus en plus tragique et de plus en plus violent. Mais sinon, c'est toujours la même technique et la même peinture. Quoi. Il y a beaucoup, par exemple, on a des peintures où on a l'impression de voir le douanier Rousseau, vous voyez. Et puis, il y a des peintures qui font penser, effectivement, aussi au surréalisme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que André Breton, qu'elle avait vu à Paris, lui avait demandé de rester à Paris, parce qu'il avait bien l'intention d'en faire son icône, l'icône du surréalisme. Et elle a détesté Paris, elle a détesté les surréalistes. Et à son ami photographe, Nicolas Muret, elle a écrit une lettre qui est anthologique parce qu'elle dit des choses sur les écrivains et les artistes français absolument terribles. Hein. Ah, bon. Tu n'as pas idée du genre de salauds que sont ces gens.
Oh, c'est mal connaître les Français. Dites-moi, Alain...
Si elle vous avait rencontré, Mathieu.
Oui, elle aurait pensé autre chose. Juste une petite question sur le fait qu'elle a fait beaucoup d'autoportraits, mais elle ne se représente jamais, en revanche, avec Diego.
Alors, elle ne se représente... Oui, elle s'est représentée. Ah, s'est représentée, oui. Elle a peint un tableau qui s'appelle Frida et Diego Rivera, 1931.
Donc, ça existe.
Oui. De même, d'ailleurs, Diego Rivera... Alors, lui, il a beaucoup moins peint Frida Kahlo, parce que Frida Kahlo a fait plusieurs tableaux où il y a Diego Rivera qui apparaît. Hein. Mais dans la peinture de Diego Rivera, elle apparaît assez peu, mais on répertorie par exemple un tableau qui s'appelle La distribution des armes, qui fait partie des tableaux nationalistes que Diego Rivera a peint, et où on voit justement Frida Kahlo en train de distribuer les armes aux révolutionnaires, comme une sorte de déesse qui distribue comme ça les armes. Et puis on voit aussi à un moment donné Diego Rivera peignant Cristina, sa maîtresse et sa belle-sœur, donc, et aussi Frida Kahlo, et les enfants de Cristina qui sont peints au pied d'un tableau. Et là, en même temps, c'est une grande cruauté, parce qu'elle n'a pas eu d'enfants, et il peint les enfants de sa propre sœur, vous voyez.
Bah, merci beaucoup, Alain Vercondelet. Pour tout savoir sur les couples mythiques, je rappelle Les couples mythiques de l'art, paru chez Beaux-Arts Éditions, et j'annonce également votre prochain livre, Pieds noirs, un exil inconsolable, qui paraîtra le 1er octobre prochain, aux éditions Tohu Bohu.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires comme si elle y était. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, même si vous y étiez, on ne vous aurait pas forcément trouvé. Il faut dire qu'il y avait du monde hein, dans le harem du bon roi d'Agobert.
Il n'y aurait pas eu de place pour moi. Alors j'en connais les détails, n'est-ce pas, grâce à la chronique de Fred Eger, qui a écrit l'histoire du roi d'Agobert 20 ans après sa mort. C'est pas très frais, mais ça nous permet de bien connaître la vie de ce souverain, qui, dois-je le rappeler, était le petit-fils de la terrible Frédégonde, la plus grande serial killeuse de toute l'histoire du Regnum Francorum. En gros, elle a dézingué absolument toute sa famille. Dites-vous aussi à la louche que Dagobert, c'est 130 ans après Clovis à peu près. Hein. Bon, il accède au trône en 629. Alors Dagobert, il était légèrement obsédé sexuel sur les bords. Aujourd'hui, il aurait eu des gros problèmes avec MeToo parce que Fred Eger nous raconte qu'à 12 ans, il viole une petite bergère sur les pentes de la butte Montmartre qui à l'époque était... fréquenté par des moutons, hein, j'imagine. Alors, Dagobert sera polygame, spécialiste de la répudiation éclair, et il multipliera les concubines. Il aura 5 épouses, dont 3 simultanément. Hein. Donc, la fameuse Gamatrude, qu'il épouse à 15 ans, il la répudie à 30, parce qu'en fait, c'est son papa qui la lui avait imposé, donc il n'était pas content du tout. Et il tombe très amoureux de Nantilde. Et il va vouloir épouser Nantilde, et avec elle, il signe un contrat de mariage quand même extrêmement particulier. Il y a une clause qui stipule que le roi a le droit de s'unir avec autant de concubines qu'il le souhaite. C'est quand même particulier comme contrat de mariage. Alors qu'il vient juste d'épouser Nantilde, ah ben zut, alors il rencontre Agnétude. Alors elle va lui donner un fils qui sera d'ailleurs le futur roi. Donc quasiment trois femmes simultanément, et puis 2 concubines.
Mais il avait un palais pour mettre tout ce
alors
monde.
Il avait un palais. Oui, mais enfin, vous rendez compte, c'est quand même pas de sa faute s'il y a tellement de jolies mérovingiennes dans le Regnum Francorum.
C'est pas de sa faute.
Et puis, par ailleurs, dans la tradition germanique, la polygamie est chose normale. Les hommes ont une première épouse officielle et des épouses de rang inférieur, sans compter les concubines et les esclaves. Parce que l'idée, c'est de sceller des alliances politiques et puis surtout donner au roi, au chef, le plus de chances possible d'avoir une descendance mâle, naturellement. Comme le mariage relève du droit privé, bah, il peut se faire et se défaire très très facilement. Et d'ailleurs, 150 ans plus tard, la situation de Charlemagne sera exactement la même. On lui connaît 5 épouses et au moins 6 concubines. Et à la mort de sa 5e femme, il ne se remarie pas, mais il continue à vivre entouré de toute une flopée de femmes. On lui a même, d'ailleurs, Charlemagne, on lui a prêté des relations incestueuses avec sa sœur, avec ses filles. Enfin, ça a été assez salé. Bon, ça, évidemment, ce sont des légendes et des racontars qui ont été forgés par la suite par des religieux qui estimaient la liberté de mœurs des Mérovingiens incompatible avec la morale chrétienne. En tout cas, quand se fait la rupture dans cette histoire de harem mérovingien, c'est avec le fils de Charlemagne, le fameux Louis le Pieux, qui ne porte pas pour rien ce qualificatif. Lorsqu'il succède à son père en 814, il expédie ses sœurs trop libres dans des monastères, il chasse du palais les femmes jugées aux mœurs trop lestes, et il interdit la présence de prostituées dans les environs de la cour. Donc retenez que chez nos aïeux mérovingiens, il y a des harems comme en Orient, mais la grosse différence, c'est qu'en Orient, ce sont des lieux clos, cachés aux yeux du monde. Alors qu'en Occident, chez nos rois mérovingiens, ils mènent cette vie assez dévoyée, débridée, au grand jour. Bon, pour en revenir au bon roi Dagobert, heureusement, il compensait ses vices par de précieuses qualités politiques et il va consacrer son règne à restaurer l'unité du peuple franc et à le tirer du chaos. Et notamment, il montrera une indéniable perspicacité dans le choix de ses subordonnés, puisque la France entière connaît le nom de son principal conseiller, qui est considéré comme un saint. Mathieu, vous connaissez la chanson,
le Saint-Éloi,
maître royal des monnaies devenu évêque de Noyon. Alors bon, de temps en temps, le sang de Frédégonde jaillit chez Dagobert. En 631, il fait égorger 9000 Bulgares qui lui avaient demandé asile. Et une autre fois, pour mater une révolte, il fait décapiter tous les Saxons dont la taille dépasse celle de son épée. C'était quand même un chic garçon. Alors il reste juste une question essentielle. Dagobert était-il aussi bête et tête en l'air que le laisse entendre la chanson? Même si on sait que cette chanson a été écrite pour Brocardé Louis XVI, sur l'air de, vous vous souvenez l'autre jour, sur l'air de la fanfare du grand cerf. C'est même vous qui nous avez posé la question.
C'est une question du quiz, c'est bien,
donc,
vous retenez.
Selon l'historien Laurent Tess, qui parle du roi Dagobert, ce nerveux, cet agité, cet insomniaque était d'une étourderie incroyable. Cuirassé, il prend sa canne au lieu de sa lance. Raccompagnant un noble visiteur, il met son bonnet sur son diadème. Cet inguérissable dysentérique a plus d'une fois remis sa culotte à l'envers. Donc, s'il mettait sa culotte à l'envers, c'est pas parce qu'il était étourdi, c'est parce qu'il avait des problèmes gastriques. Et d'ailleurs, Frédéguerre nous dit qu'il serait mort d'un flux de ventre. Voilà, c'était un des plus grands rois mérovingiens. Dagobert, il est mort le 19 janvier 639, à l'âge de 36 ans. Et alors, j'ai trouvé un truc que je trouve rigolo, c'est que selon qu'on attribue l'origine de son nom à des origines celtiques ou germaniques, si c'est celtique, ça veut dire grand et bon, d'accord, Dagobert. Mais en vieux francique, Dag veut dire jour, et aber, brillant ou bonheur. Ce qui veut dire que Dagobert signifierait bonheur du jour. C'est quand même le nom d'un élément de mobilier féminin où les dames cachaient leurs lettres d'amour. Je trouve ça beau, Dagobert égale bonheur du jour. Enfin, oui, c'était quand même un chaud lapin dans son harem.
Enfin, on a appris qu'il était mort
D'un flux de ventre, mais oui, depuis son enfance, il avait des problèmes, des problèmes intestinaux gastriques majeurs.
Donc en fait, il a mis sa culotte à l'envers à cause de ça.
Il devait changer de culotte souvent, le pauvre gars.
Ça aurait fait une bonne question dans le quiz, ça, franchement. Dagobert mettait-il sa culotte à l'envers parce qu'il a fait des problèmes gastriques? Je suis un peu jaloux de ne pas l'avoir trouvé. Merci Clémentine, et j'en profite pour signaler qu'on vous retrouve aussi dans Au cœur de l'histoire, désormais que vous animez, pour nous raconter d'autres histoires. Un podcast Europe 1 disponible sur toutes vos applis audio et sur le site europe1.fr.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Notre spécial, ils remettent le couvert, continue. Il y a des couples qu'on a envie de voir se reformer, des couples qui inspirent. Et puis il y a ces couples, comme celui formé par Gabin et Signoret dans Le Chat, qui donnent envie de rester célibataire le plus longtemps possible. Jouons à Bern-Soubiela. Stéphane, la première question est pour vous. C'est une citation. Après avoir fait l'amour, le premier qui parle dit une bêtise. Très belle citation de Henri de Monterland qui explique pourquoi, personnellement, dans ce genre d'occasion, je ne pipe mot. Quoi qu'il en soit, Monterland disait toujours qu'il était né en 1896 pour avoir le même âge qu'André Breton, alors qu'il était né un an avant. Vrai ou faux?
Bon, je ne suis pas très doué sur les dates de naissance des grands écrivains. Pourquoi Monterland aurait-il voulu avoir le même âge qu'André Breton? Alors que leurs univers sont totalement différents. Monterland, c'est la reine morte, c'est la ville dont le prince est un enfant.
C'est une certaine rigidité.
C'est une rigidité, c'est très catholique.
Oui, on est très loin de Breton.
On est très loin de Breton.
Puis se balader dans les salons, on est né la même, année, quel intérêt?
Non,
vous répondez.
Faux, c'est faux.
Vous avez gagné
Quel excellent raisonnement, Stéphane. C'est complètement faux. Il donnait néanmoins à Monterland une fausse date de naissance. Il était né le 20 avril 1895, mais il disait toujours le 21 avril 1896. Mais pas pour avoir le même âge qu'André Breton. Il se rajeunissait d'un an par coquetterie et disait le 21 avril pour pouvoir dire qu'il était né le même jour que la fondation de Rome. Fondation de Rome, le 21 avril 753.
Et que
ça
la
colle
reine d'Angleterre plus. Aussi. Mmh.
Question numéro 2 pour vous. Un cocu, c'est un entier qui partage sa moitié avec un tiers. Encore une bien belle citation, mais elle est cette fois d'Alphonse Allais. En 1893, Alphonse publie « Pas de bile, œuvre enthume ». Enthume, ça veut dire « avec de multiples références à des auteurs de l'Antiquité ». Vrai ou faux ? Œuvres enthume.
Alors ce mot ne me dit absolument rien. Et je suppose que probablement je l'aurais vu passer quand même dans mes lectures. Enthume. Enthume, E-N-T-H...
A-N. A-N-T-H-U-M-E.
Enthume. A-N-T-H-U-M-E.
Pas de bile, œuvres enthumes.
Non, non, ça ne me dit rien du tout. Je vais répondre non parce que je
vous dites que c'est faux.
Oui.
Vous avez...
Vous avez gagné, mais pas tout à fait avec le bon raisonnement, car enthume existe. C'est un néologisme d'Alphonse Allais qui signifie l'inverse de posthume, tout simplement.
Ah,
œuvre de son vivant, vous connaissez oui, l'esprit piquant oui. d'Alphonse Allais. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Vous connaissez sans doute en Espagne la tomatina, un événement qui consiste le dernier mercredi du mois.
Un jeté de tomates, une bataille de tomates.
Non, ce n'était pas la question. Mais on se lance des boules de neige, mais avec des tomates. Cette tradition date d'Isabelle II, reine d'Espagne, qui, selon la légende, ne supportait pas les tomates. Dès qu'on lui en servait, elle les jetait par la fenêtre. Vrai ou faux ?
Je crois que c'est beaucoup plus ancien qu'Isabelle II d'Espagne. Isabelle II d'Espagne, c'est le début du 19e siècle.
Et vous pensez que la tomatina...
La tomate arrive avec les conquistadors. Elle sert d'abord de plante d'agrément avant d'être mangée, bien sûr. Comme la plupart des plantes ont été, comme le tabac aussi.
Vous nous éloignez là. Alors restons sur la tomate.
Elle vous en fume, oui.
Elle m'en fait. Elle, c'est très enthume. Oui. Instinctivement, je dirais non parce que Isabelle II, elle était surtout connue pour ses amants.
C'est quelle époque Isabelle II ?
Isabelle II, c'est le 19e siècle. C'est le 19e siècle. Je dirais que c'est plutôt une tradition de
plus ancienne. Ah, moi, je suis pas de votre avis. Moi, je pense que c'est une tradition plus récente.
C'est faux.
Vous répondez
pas
faux.
Lié à Isabelle II.
Vous avez gagné.
Vous avez mis gagné.
J'ai gagné.
Que vous n'avez qu'un demi-point.
Parce que
vous avez donné trop d'informations. Vous nous dites que la tradition remonte bien avant le 19e siècle. Pas du tout.
Non.
C'est une tradition qui date de 1945, Stéphane. Vous n'y êtes pas du tout.
Oui, d'accord.
Il y a juste eu une baston en 1945 entre des jeunes qui se sont lancés des tomates. L'année suivante, il y a eu vengeance avec la bande rivale. Et la tradition est née comme ça. Depuis 1959, la tomatina est organisée et officielle. Il faut venir avec un t-shirt blanc, des lunettes de plongée et surtout écraser la tomate avant de la lancer.
Oui.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Au début de l'année 1968, le ministre de la Jeunesse et des Sports inaugure la piscine de Nanterre. Un étudiant en maillot de bain l'interpelle à propos du livre blanc sur la jeunesse que le ministre vient de publier. Il lui fait remarquer qu'il n'y a pas un mot sur les problèmes sexuels des jeunes. Le ministre, pour détendre l'atmosphère, pousse le jeune dans la piscine. Vrai ou faux ?
Oh, c'est rigolo, cette histoire. Enfin, le ministre, ça lui aurait fait une mauvaise publicité. Je pense que c'est à quelle époque, dites-vous ?
1968. Hein, oui.
On imagine un ministre en train de pousser Cohn-Bendit dans la piscine de Nanterre. C'est très marrant, cette anecdote. Mais j'imagine pas trop un ministre en déplacement dans un contexte public en train de pousser un jeune dans la piscine. Mais je trouve ça trop beau pour être vrai. Je réponds faux.
Vous avez gagné.
Une excellente bonne demi-réponse, puisqu'effectivement, elle ne valait qu'un demi-point. Je ne vous avais pas prévenu. Faux. Il ne l'a pas poussé dans la piscine. Mais le ministre a conseillé au jeune de faire quelques longueurs pour se calmer. Ce jeune, c'était Daniel Cohn-Bendit. On était à Nanterre. Question numéro 5. Oh, égalité. On peut le confier aux éditeurs d'Europe 1. Il m'est arrivé ces dernières années de croiser par hasard Clémentine et Stéphane en manif, battant le pavé parisien, mais tout en respectant le débat républicain. Voici la question. Depuis quand date le vilain slogan CRS-SS ? Attention. 1947, 1952, 1968.
68
normalement, mais je pense
que...
C'est 57.
Je vous donne l'opportunité.
52.
Non.
47. La première,
47 ans, oui Stéphane.
J'ai dit 1 avant qu'ils disent 47, ouais. C'est génial. J'ai dit 1 avant qu'ils ne disent 47.
Ah, vous avez dit 1 ouais. Alors désolé Stéphane. Victoire de Clémentine
Portier-Gatenbach. Elle avait d'abord 68.
Oui, mais toi t'avais déjà dit
la 2. Vous avez dit tous les deux, c'était la petite surprise de la question.
Ah, 47. C'est ça qui est étonnant.
Il y a eu des grèves dans les mines du Nord en 47. Le ministre socialiste Jules Moch choisit la répression. Plusieurs morts par balle sont à regretter. Le slogan s'est inventé à cette époque. Il sera repris en 61 déjà, quand les forces de l'ordre jetteront des Algériens dans la Seine, ainsi qu'après le massacre de Charonne en 62, et puis bien évidemment pendant mai 68.
Mais c'était déjà les compagnies républicaines de sécurité ?
Le slogan existait. CRSS, oui. Vous me remettez en doute votre propre victoire ?
Je trouve ça surprenant qu'en 1947, on parle déjà des compagnies républicaines de sécurité. On est juste au lendemain de la guerre.
On parle des CRS Création.
Je ne serais pas péremptoire parce que je ne connais pas...
CRS Création 1944, c'est bon, c'est ça.
Ah bravo, bah écoutez, passionnant.
Les CRS ont été créés en 1944, c'est donc une très belle victoire de Clémentine.
Très belle.
C'est une victoire de raccro de Clémentine.
Oh dis donc, espèce de mesquin.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, autour de personnages très différents mais réunis autour d'un point commun, Mathieu.
Oui Stéphane, et comme vous me le disiez très justement en antenne, l'histoire c'est bien joli, mais pour faire de l'audience il faut des histoires de fesses. D'où votre idée aujourd'hui, nous parler de ces couples célèbres qui ont remis le couvert.
Oui, enfin bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on a choisi le thème de cette émission, mais oui, aujourd'hui, on évoque ces personnages de l'histoire qui se sont aimés, mariés, séparés, puis remis ensemble. Après Frida Kahlo et Diego Rivera, je vous raconte le remariage mythique de Liz Taylor et Richard Burton. Eux, Mathieu, ils ne se sont pas remariés, mais ils vont à nouveau main dans la main.
Jennifer Lopez et Ben Affleck.
Ah, oui,
pourquoi
ça.
Se sont-ils remis ensemble cet été, 12 ans après leur rupture? Cette fois, est-ce que ça va durer? Et surtout, la question essentielle, qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver? Éléments de réponse vers 17h20.
Eux, ce ne sont pas des éléments de réponse, mais la réponse entière qu'ils nous donnent.
Ils sont forts.
David Cassel Lopez, vous nous racontez les origines d'un pistolet à eau, c'est
exactement, ça? Exactement, mais pas n'importe quel pistolet à eau, le roi des pistolets à eau, celui qui a vraiment changé l'enfance des enfants des années 90 et qui continue à changer l'enfance des enfants d'aujourd'hui et qui s'appelle le Super Soccer.
Olivier Poul, c'est un ustensile dont vous nous parlez qui est très utile pour remettre le couvert.
Vous ne mangez pas avec les doigts, mon cher Stéphane.
Oh non, ça fait depuis mon enfance.
Vous mangez avec une fourchette.
Une fourchette.
Ben, vous saurez depuis combien de temps l'homme mange avec une fourchette et puis l'évolution de la fourchette au fil des temps, parce que vous allez voir que ça a beaucoup changé.
Enfin, au crépuscule de cette émission, vers 6h-10, David Castello-Lopez sera une fois de plus aux abois, cherchant des neurones partout.
Je ne sais pas si quelqu'un en a autour de la table.
Ce sera la lutte finale, notre autre quiz. J'espère que vous en trouverez d'ici là, David. Et tout de suite, partons à la rencontre d'un couple mythique qui s'était séparé, ça avait fait du bruit. Avant de se remarier, ça avait fait encore plus de bruit. Stéphane Bern nous raconte Liz Taylor et Richard Burton.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
En 1966, Elizabeth Taylor et Richard Burton se retrouvent sur le tournage du film « Qui a peur ?» de Virginia Woolf. L'histoire d'un couple qui s'insulte et se déchire, mais ne parvient pas à se séparer. Sur le plateau, les deux acteurs mythiques, mariés à la ville depuis 2 ans, se lancent régulièrement à la figure des noms d'oiseaux ou des éléments du décor, avant de reparaître main dans la main 10 minutes plus tard, visiblement épris et apaisés. Mais cet amour passionnel les consume à petit feu. Elisabeth et Richard se rencontrent au début des années 60 en Italie, sur les plateaux de Cléopâtre. Liz Taylor est alors au sommet de cette gloire. Elle a joué et tourné avec les plus grands et elle vient d'obtenir un Oscar pour son rôle de prostituée qui tombe amoureuse d'un de ses clients dans la Vénus au Vison. Burton, lui, a rencontré la célébrité 10 ans plus tôt avec le film Ma cousine Rachel pour lequel il a également failli remporter une statuette. Dans cette nouvelle super production qui les réunit, Liz joue le rôle de la reine d'Égypte et Richard, celui de Marc-Antoine, un des couples les plus légendaires de l'histoire. À son arrivée, Elisabeth compte bien ne pas succomber au charme de ce séducteur invétéré que sa réputation précède. Marié depuis plus de 10 ans, père de 2 enfants, Burton enchaîne les relations avec ses collègues et fait peu d'efforts pour le masquer. À la brune Claire Bloom succède la blonde Zsa Gabor. Elisabeth ne tient pas à être un trophée de plus sur un tableau de chasse déjà bien rempli. Mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Richard Burton, qui est passionné de littérature et de poésie, mais ne le montre pas toujours dans sa vie quotidienne, a prévenu ses amis. Il ne lui faudra pas plus de 2 jours pour mettre Elisabeth dans son lit. Perdu, mais pas tout à fait. L'affaire prendra 5 jours, en réalité. Il faut dire que la vie sentimentale d'Elizabeth Taylor n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Au moment de sa rencontre avec Burton, la diva en est déjà à ses 4e noces et elle n'a pas encore 30 ans. Son dernier mariage a particulièrement choqué l'Amérique. Elle a épousé Eddie Fisher, très peu de temps après le décès brutal de son mari précédent dans un accident d'avion. Eddie était en outre lui-même marié et un très bon ami du défunt. Un soir, passablement aviné, comme c'était son habitude, Richard Burton débarque dans la villa que loue Elisabeth. Son mari Eddie est là, ainsi que quelques convives triés sur le volet. Devant tout le monde, Richard demande à Liz de l'embrasser. Elle s'exécute, révélant ainsi crûment leur liaison. Très vite, les ennuis commencent. Alors que Richard retourne vers sa femme, Elisabeth avale une boîte de somnifères. Elle ne connaît cet homme que depuis 2 mois, mais elle l'aime déjà, un peu, beaucoup, à la folie. Burton, lui aussi, est épris. Mais il boit, un peu, beaucoup, à la folie, et peut se montrer très violent. Après 2 années tumultueuses, l'un et l'autre divorcent pourtant, chacun de leur côté. Et en mars 1964, ils se marient. De loin, leur vie ressemble à un conte de fées animé. Ils partent sur un coup de tête en jet privé pour un week-end en Italie. Ils font la fête, souvent, et dans les meilleurs restaurants. Des tableaux de Van Gogh et de Picasso décorent leurs propriétés à travers le monde. Ils collectionnent les Rolls. Richard offre à sa belle aux yeux violets, comme il l'appelle, les plus beaux diamants de la planète, jusqu'à celui qui porte désormais leur nom, le Taylor Burton, une pierre de 68 carats, achetée près $1 million. Les moments paisibles ne sont pas légion pour autant. L'ambiance est souvent électrique. Elisabeth et Richard s'admirent et se détestent. Ils s'attirent et ne se supportent pas. Burton boit du cognac le matin, de la vodka l'après-midi et le whisky le soir. Elisabeth le suit souvent dans ses excès. Il supporte mal la célébrité, l'environnement dans lequel ils évoluent à Hollywood. L'acteur se sent pris au piège comme un animal de zoo. Il souffre de dépression. Il est de plus en plus violent, au point de perforer le tympan d'Elisabeth en lui donnant un coup à la tête. Finalement, en juillet 1973, l'Amérique est sous le choc. Le couple annonce sa séparation. Le divorce est prononcé 1 an plus tard, bien que les 2 amants terribles se soient revus à quelques reprises et disputés autant de fois. Dans la foulée, Liz s'est entichée d'un beau vendeur de voitures et fait la promotion de sa relation, sans doute dans l'espoir de rendre jaloux Richard. Fraîchement divorcés, les 2 stars continuent de s'appeler régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Un soir, ils se retrouvent lors d'un dîner en Suisse. 2 mois plus tard, Elisabeth suggère qu'ils se repassent la bague au doigt, là, tout de suite. Nous sommes en octobre 1975, à peine 1 an après leur rupture. Burton doute, mais se laisse convaincre par cette nouvelle folie. La cérémonie a lieu au Botswana, dans le lodge luxueux d'un parc naturel. Dans son journal intime, Richard Burton griffonne au sujet de sa douce « Je l'aime plus que tout et par-dessus tout ». Leur garde du corps semble moins enthousiaste. J'étais sûr que leur 2e mariage ne durerait pas plus de 10 minutes. Mais il était aussi évident qu'ils semblaient avoir besoin l'un de l'autre. Quand il était là, elle donnait l'impression de le haïr. Quand il n'était pas là, elle ne pouvait pas le supporter d'être sans lui, confesse-t-il. L'affaire se solde par un nouveau divorce. Non pas 10 minutes, mais 9 mois plus tard, en juillet 1976. Richard Burton a entre-temps rencontré une jeune femme de 27 ans et compte profiter de cette nouvelle relation plus saine pour soigner sa dépendance à l'alcool. Malgré de nombreux flirts et 2 nouveaux mariages, Liz Taylor n'oublie jamais son Richard. En 1983, alors qu'ils jouent ensemble à Broadway, elle le supplie de redonner une chance à leur histoire. Peine perdue. Burton épouse la même année une autre femme. Mais juste avant de mourir, l'année suivante, il envoie à Elisabeth une dernière lettre d'amour. 27 ans plus tard, la star hollywoodienne emporte la missive dans sa tombe sans que personne ne sache réellement ce qu'elle contient. Mais Elisabeth l'a juré, avec Richard, nous nous serions mariés 1/3 fois. De quoi faire vivre la légende pour l'éternité.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Elizabeth Taylor et Richard Burton, nous sommes avec la critique cinéma Muriel Joudet. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Bonjour Muriel Joudet, vous êtes critique cinéma au Monde et aux Inrecuptibles. Vous travaillez actuellement sur la rétrospective dédiée à Elizabeth Taylor qui se tiendra à la Cinémathèque de Paris à partir du 1er décembre prochain. Pour la conférence que vous y tiendrez, vous avez choisi de partir de cette phrase d'Elizabeth Taylor. Depuis toute petite, je croyais être prédestinée. Et si cela est vrai, Richard Burton assurément était mon destin. Un destin qui fut à l'image de son couple, pas toujours simple alors.
Oui, pas toujours simple, et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce couple, c'est que tout est dans la surenchère. C'est vraiment l'intensité de cette relation qui, je crois, en fait une relation très marquante, et le fait aussi qu'elle a existé, qu'elle s'est aussi racontée par le cinéma à partir de Cléopâtre.
Et ce destin très cinématographique, Liz Taylor semble tout au long de sa vie l'avoir davantage construit que subi, non ?
Oui, c'est Mankiewicz qui disait que pour Elizabeth Taylor, la vie était un rôle. Je pense que c'est très important de comprendre que Elizabeth Taylor est une enfant star, hein, elle commence le cinéma à 9 ans, et que du coup, je pense que ses rôles, comme ses mariages, c'était à peu près la même chose. Elle vivait ça comme une actrice, et elle ne subissait rien. C'est quelqu'un qui adorait la célébrité, qui adorait la presse people, les médias, qui adorait se voir en une des journaux et qui n'était pas du tout une victime par rapport à tout ça, contrairement à, en prenant Judy Garland, elle choisissait son destin, elle choisissait ses hommes, elle les arrachait des mains de leur épouse. Et c'est vraiment une célébrité qui avait tout. Et d'ailleurs, elle a joué dans un film qui s'appelle La fille qui avait tout, et pour moi, ça résume un peu sa destinée.
On parle du plateau, justement, en Italie, du film Cléopâtre. Lorsque Elizabeth Taylor et Richard Burton se rencontrent, c'est elle la star. Et toute sa vie, finalement, c'est elle qui le restera.
Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui est crucial. C'est que Richard Burton, lui, est un petit acteur shakespearien qui a des seconds rôles et qui vraiment va connaître la célébrité par Cléopâtre et par Elizabeth Taylor. Donc, c'est vraiment une femme qui offre à un homme la célébrité, l'argent, le pouvoir. Et ça, c'est assez inédit à Hollywood.
Ce qui est inédit aussi, c'est le caractère un peu sulfureux de leur relation. Lorsque Liz Taylor et Burton ont aimé leur relation, ils sont tous les deux mariés, Stéphane l'a raconté. Le scandale est retentissant, mais la presse, j'imagine, adore cette relation extra-conjugale.
Oui, c'est vraiment... le biographe d'Elizabeth Taylor raconte que c'est l'histoire d'amour la plus médiatisée des années 60 et même le fait privé le plus médiatisé des années 60. Donc, le contexte est très important. C'est ce qui va rendre le tournage de Cléopâtre complètement rocambolesque. C'est qu'ils sont suivis absolument partout. Il y a des paparazzi sur les toits, cachés partout, qui les suivent en Vespa. Il faut comprendre aussi que ce scandale est intimement lié au fait qu'on est dans une société encore très puritaine, qui glorifie le mariage bourgeois. Et là, on voit deux personnes qui succombent à l'adultère. Et ça, c'est très, très mal vu parce que les stars doivent être encore exemplaires. Et donc, le Congrès américain et le Vatican vont s'en mêler et vont vilipender cet adultère.
Il paraît que même le pape Paul VI s'en est offusqué. Ça fait partie de la légende, mais on dit que les États-Unis sont un peu en manque de famille royale et que ce rôle est occupé ou par les Kennedy ou par les célébrités hollywoodiennes. Au fond, le couple Taylor-Burton faisait figure de couple royal pour les Américains.
Ah oui, tout à fait, c'est vraiment ça. C'est que je pense que Hollywood fonctionne comme ça. Ça remplit ce manque qui est laissé par l'absence de royaume, et que surtout Elizabeth Taylor et Burton ont voulu jouer ce rôle. C'est-à-dire que Taylor, pendant Cléopâtre et après, se prend pour une reine et elle va vraiment totalement s'identifier à Cléopâtre jusqu'à continuer à se maquiller comme elle. Ça va créer une sorte de trauma chez elle qui fait qu'elle va vraiment se vivre comme une reine et donc, en l'occurrence, Burton comme un roi.
Stéphane l'a raconté, ils ont tourné une dizaine de films ensemble dans lesquels ils interprétaient un couple. Où était la limite entre le jeu et la réalité là-dedans, entre les rôles qu'ils incarnaient et leur propre vie du couple à ce moment-là ?
Je pense qu'il n'y en avait aucune. C'était vraiment, comme disait Mankiewicz, donc pour Elizabeth, la vie était un rôle. Ce qui est assez inédit et qui est quand même quelque chose qui, à mon avis, n'est pas arrivé qu'une fois à Hollywood, c'est qu'ils se racontent par les films et on peut vraiment suivre le déroulé de leur histoire d'amour à travers les films, et ils en jouaient. Après, il faut comprendre aussi que les producteurs savaient qu'un film avec Burton et Taylor qui se disputent en ayant bu de l'alcool, comme dans qui a peur de Virginia Woolf, ça faisait venir le public en salle. Et du coup, ils en jouaient parce que les films étaient d'énormes cartons. Et du coup, la séparation vie privée vie publique n'existe pas, parce que de toute façon, leurs moindres faits et gestes étaient commentés par la presse people. Et du coup, c'est une manière de ne pas subir ça en se disant que les films vont finalement être une manière de raconter le couple.
Mais Muriel Jodé, pour finir là-dessus, Elizabeth Taylor a eu une vie, on l'a compris, une vie amoureuse très tumultueuse. Au cours de sa vie, elle s'est mariée 9 fois, dont 2 fois donc avec Richard Burton. Elle l'épouse de nouveau tout juste 1 an après leur divorce. Pour elle, au final, il avait de quoi de plus que les autres. On sent bien qu'il occupe dans sa vie une place particulière. C'est l'homme de sa vie, quelque part, quand même. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres ?
Et voilà, c'est ça. C'est le fait que le mariage est vraiment la grande notion de sa vie. Dans tous ses films, il est question de mariage. Et qu'est-ce qui se passe après le mariage ? C'est vraiment la thématique de tous ses films et dans sa vie aussi, puisqu'elle s'est mariée de nombreuses fois. Et je pense que Burton, comme je le disais, était vraiment un des seuls hommes qu'elle a véritablement aimé et qui remplissait son goût du risque. C'est quelqu'un qui n'aimait pas le confort. À partir du moment où le confort s'installait dans le mariage, elle s'enfuyait et elle avait besoin d'intensité, elle avait besoin de surenchère, elle avait besoin d'excès. Et Burton était comme elle. Y a un biographe qui raconte que c'était vraiment le couple qui incarnait une joie de vivre rabelaisienne. Et je pense qu'ils sont vraiment rabelaisiens tous les deux. Ils se sont rencontrés autour de cette notion.
Merci Muriel Jodé. Je rappelle la rétrospective Elizabeth Taylor qui se déroulera à la Cinémathèque de Paris du 1er décembre au 2 janvier prochain. Et vous animerez une conférence le samedi 18 décembre après la projection du film Le Chevalier des Sables qui était sorti en 1965 avec naturellement Elizabeth Taylor et Richard Burton.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces couples de l'histoire qui ont remis le couvert. Après Richard Burton et Liz Taylor, vous nous brossez Mathieu le portrait, bon à 99% vrai, d'un couple star qui vient de se reformer.
Alors, dans l'esprit de beaucoup de gens, remettre le couvert, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je sais, Stéphane, qu'en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas fermé à l'idée, puisque vous me disiez hors antenne, et j'ai aimé la poésie de cette formulation, je vous cite, « Coucher avec son ex, c'est comme se réchauffer un bout de pizza au petit-déj, c'est malsain, mais c'est beau. » On embrasse cette personne qu'on appellera Margarita, ou quatre mâles, parce qu'il y en a plusieurs. C'est humain, on a tous vécu ça. Une nuit de solitude qu'on essaye de conjurer avec un pot de Ben & Jerry's Peanut Butter Cup devant l'intégrale de Friends. Le vague à l'âme qui monte et vers 1h du mat, on envoie 12 émoticônes aubergines clin d'œil à son ex qui évidemment ne répond pas sur le coup puisqu'elle dort avec son nouveau conjoint et qui le matin vous renvoie juste un « ça va toi, gêné ». Mais vouloir remettre le couvert n'est pas toujours aussi pathétique, parfois ça marche. Je vous présente les bénéfices. Ah, les bénifères. Lui, c'est Ben Affleck, le célèbre acteur hollywoodien. Elle, c'est Stéphane, cette femme qui a gravi à la force de son caractère bien trempé toutes les marches vers la célébrité.
Sonia Mabrouk.
Presque. Jennifer Lopez, Stéphane, la Sonia Mabrouk portoricaine. J-Lo, pour les intimes, est une des chanteuses ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. Son armoire croule sous les Grammy Awards. À eux deux, ils formaient au début des années 2000 le power couple le plus épié, le plus fantasmé du showbiz. Ils s'étaient séparés en 2004, mais voilà. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
Annie Cordy.
Brel, Stéphane, Brel. 17 ans, 2 mariages et 5 enfants cumulés plus tard, les Bénifère ont réalisé qu'en fait, ils s'aimaient toujours. Alors, il faut comprendre Jennifer, Ben Affleck est plus séduisant que jamais. Faut comprendre Ben, à 52 ans, Jennifer en paraît 37. Leurs racines, laissez-moi vous les compter. Jennifer Lopez vient du Bronx, Stéphane. Elle est d'origine portoricaine, mais elle a grandi dans ce quartier déshérité de New York que vous aviez vu, mais de loin, derrière les vitres du NYC Authentic Bus Tour. Le chauffeur s'était arrêté à l'angle de la 132e pour que vous puissiez prendre des photos de pauvres au téléobjectif. C'est dans ce quartier que J-Lo passe sa jeunesse entre scolarité dans une école catholique et cours de danse hip-hop. Plus douée pour la danse que pour le catholicisme, elle intègre une compagnie, se produit dans les bars, puis explose grâce à MTV. Alors oui, pardon, pour les millénials qui nous écoutent, MTV c'est une chaîne musicale très populaire dans les années 90. Et ah oui, une chaîne musicale c'est une chaîne de télévision dans laquelle on diffusait essentiellement des clips. Ah oui, et une télévision c'est... Bon bref, on n'a pas le temps. Pour J-Lo, passer sur MTV c'est le tremplin vers la notoriété mondiale. Son booty et la manière surtout dont elle le bouge deviennent iconiques. Un peu plus que les films qu'elle tourne. Stéphane, est-ce que vous avez vu Anaconda? Pas le remake porno, hein, le normal. Vous l'avez vu? Beau film. Il a rien eu à Cannes, j'ai pas compris pourquoi.
Mais d'où vient ce foutu serpent de merde?
C'est vraiment affreux. Il a bondi des toilettes.
Un autre film.
Un serpent qui bondit, alors là.
Un serpent qui bondit des toilettes. Un autre film hors d'atteinte avec George Clooney redore un peu le blason d'actrice de J-Lo, dont le cœur de métier reste heureusement la musique. Des tubes, et surtout un style. Le string qui dépasse du jean, Stéphane Sétel. La chaînette qui pendouille autour des hanches, c'est encore elle. Le combo, jogging en velours, brassière, même en soirée, c'est toujours elle. Elle fascine les jeunes filles et électrise les jeunes hommes. Quand David menait ses expériences, disons, limite avec son microscope, vous vous souvenez?
Ah oui,
bon,
je me souviens.
Et ben, comment croyez-vous qu'il se mettait en condition pour obtenir le produit qu'il se proposait d'analyser? Bien sûr, mais oui, 2 minutes de If You Had My Love devant un poster de Jello en trichini.
Et j'en fous partout.
Oui, Ben Affleck, lui, à l'époque, il est comme David. Enfin, pas tout à fait comme lui, car c'est une star hollywoodienne qui prend 5 millions par film et qui fait fantasmer toutes les meufs de la Terre, y compris une certaine Constance. Mais disons que lui non plus ne connaît pas personnellement Jello. Avec son pote Matt Damon, ils ont écrit et joué dans Will Hunting, ils sont bankable, Ben franchit encore un cap en devenant réalisateur, Argo lui vaut d'ailleurs l'Oscar du meilleur film en 2012, mais son plus beau projet dans la vie, c'est l'amour. Avant J-Lo, Ben Affleck a déjà eu 2 grandes relations passionnelles destructrices, une avec Gwyneth Paltrow, une avec le whisky. Il s'est mieux entendu avec le whisky, avec qui il passe de merveilleux moments de complicité dans sa villa de Melrose, pendant que Jennifer Lopez, elle, s'éclate. Elle enchaîne les mecs dont la Fat People n'a même plus le temps d'intégrer les noms, et qui sont donc juste référencés par profession. 1997, J-Lo sort avec le serveur. En 98, elle se tape le rappeur. Ça, c'est quand même Puff Daddy. L'année d'après, la voilà en couple avec le danseur. Mais bientôt, l'amour, le vrai, va frapper au détour d'un tournage sur l'inoubliable film Gigli. Starring, eh ben oui, Ben Affleck, qui l'aurait dragué assez lourdement sur le plateau.
Vous avez des yeux incroyables. Je n'en ai jamais vu d'une couleur pareille.
Et parfois, la lourdeur, ça marche. To become one, comme disaient les Spice Girls, les bénéfères sont nés. Elle lui dédie une chanson, ils tournent ensemble dans le clip de Jenny from the Block. En 2002, ils se fiancent et vivent heureux Ever After. Ever After, 3 semaines. Dès que BD a dit que l'amour durait 3 ans, à Hollywood, il dure plutôt 3 semaines. Après, les choses se gâtent. Ben a des envies de 4 fromages, si vous voyez ce que je veux dire, Stéphane. Mais en l'occurrence, son ex à lui s'appelle Jack Daniels. Il replonge et comme lorsqu'il est avec Jack, il n'est pas lucide, un soir, il finit dans un club de striptease en fâcheuse compagnie. Ça sort dans la presse. J-Lo trouve ça moyen, c'en est fini des bénéfères. Jennifer essaye de l'oublier dans les bras de Marc Anthony, un chanteur latino avec qui elle aura des jumeaux, pas mal pour une relation pansement. Ben, lui, se rabat sur une autre Jennifer Garner. En psychanalyse, on appelle ça un transfert, à Hollywood, une journée classique. Ils auront 3 enfants, le temps passe, chacun cicatrise. J-Lo et Ben s'envoient régulièrement des SMS courtois pour la naissance de leurs enfants respectifs. Puis finalement, un beau jour, Jennifer décide que Marc Anthony est un con. Elle divorce, Ben Affleck lui recraque pour Jack et divorce de Jennifer, l'autre. Voyant des photos de lui en peignoir tout bouffi dans les tabloïds, J-Lo prend des nouvelles de son vieux Ben et de nouvelle en nouvelle, on finit par se revoir physiquement. La rumeur enfle, en avril dernier, les bénéfères sont photographiés en train de visiter ensemble des maisons à Los Angeles, puis cet été, le doute est levé quand J-Lo publie sur Insta la photo d'un baiser enflammé avec son Benito. On exulte, on a l'impression que c'est nos propres parents qui se remettent ensemble. Capri, les Hamptons, Saint-Tropez, les bénéfères passent un bel été et le 10 septembre, premier tapis rouge ensemble depuis leur retrouvaille à la projection du film The Last Duel à la Mostra de Venise. Comme disait l'autre, pourvu que ça dure. Allez, pour le plaisir, on se replonge en 1999 à la sortie de Waiting for Tonight. On avait 17 ans. Vous vous souvenez, David?
Et là, j'ai vu apparaître dans l'objectif des choses minuscules et frénétiques.
Oui, non, oui.
Il faudrait que je retrouve mon microscope.
Non, ça suffit, la nostalgie.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces couples qui ont remis le couvert.
Pour retrouver Stéphane, un autre genre de couple, celui étrange, formé par 2 collègues qui, à force de boire du Viandox ensemble, ont développé une inquiétante amitié virile. Olivier Pouls, vous remontez pour nous aux origines d'un ustensile aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, moi, je mets le couvert, et donc à gauche, je place la fourchette, à droite, le couteau.
Ça paraît logique, mais
depuis quand mange-t-on avec une fourchette?
On va le savoir. Alors, on a la fourchette et le couteau.
Le couteau portugais.
Le couteau suisse. Et qui fait, aujourd'hui, on s'intéresse au pistolet à eau.
Ah oui.
Mais d'où vient le pistolet à eau?
Le super soccer, en tout
surtout,
cas.
Surtout.
J'ai essayé de visualiser la vie que chacune des personnes de Historiquement Vôtre menait en 1992, il y a 29 ans. Clémentine Portier-Kaltenbach, par exemple, avait 30 ans. Elle travaillait pour une petite entreprise basée à Issy-les-Moulineaux qui s'appelait L'Or à l'Est, qui aidait notamment des entreprises françaises à s'installer dans la Russie post-communiste, hein, d'où L'Or à l'Est, L'Or à l'Est.
Ah, oui.
Vous voyez, Olivier Pouls avait 21 ans, il travaillait pour une télévision locale dans les Vosges qui s'appelait Image Plus.
À Épinal.
Il était, il me l'a dit, plus musclé qu'aujourd'hui. Stéphane, vous aviez 28 ans, vous commenciez votre carrière à la Radio Nationale sur Europe 1, vous aviez une chronique sur les têtes couronnées, déjà. Mais Mathieu et moi-même, nous, on était enfants. À l'été 92, Mathieu, vous aviez 9 ans et j'en avais 10. Et je ne sais pas pour vous, mais l'été 92, ça reste un des meilleurs étés de mon existence. Une sorte de summum de l'enfance heureuse. Et l'une des raisons de ce bonheur, c'est un jouet que j'ai reçu cet été-là et qui, à ce jour, est l'un des objets qui m'a procuré le plus de fun de toute ma vie, le Super Soccer.
Plus que le microscope.
Plus que le microscope. J'avais pas besoin du microscope pour faire ça. C'était plutôt une curiosité scientifique. Ouais. On l'oublie derrière tout ça. Le Super Soccer. En anglais, Super Soccer, ça veut dire le super détrempeur. Ouais. C'est un pistolet à eau, mais pas n'importe lequel. Pas un de ces pistolets qui crachouillent quelques millilitres d'eau quand on presse sur la gâchette. Non, un pistolet à eau très très puissant qui projette de l'eau très loin et très fort. Alors j'en ai amené un ici, il est désactivé, hein, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est un modèle minuscule, hein, le XP30, mais celui que j'avais en 1992, c'était une sorte de bazooka à eau. On appelait le Super Soccer 100 et c'était génial. On était au bord de la piscine et on avait un Super Soccer chacun avec mon ami Igor et on faisait nos petites guerres inoffensives en s'embusquant dans les buissons.
Enfin, vous n'avez rien mis d'autre que de l'eau dans le Super
Non,
soccer,
mais
pas d'expérience,
vous en prie,
pas d'expérience borderline.
On peut pas mettre du vin, par exemple.
On peut. Il y a rien qui nous en empêche. On ménageait nos munitions et c'était vraiment un bonheur. Et en hommage à ces jours de mon enfance, je vais donc vous raconter l'histoire du Super Soccer, qui est une histoire, elle aussi, heureuse. Le Super Soccer, il a été inventé par un monsieur qui s'appelle Lonnie Johnson. Lonnie, il est né dans les années 40 en Alabama, dans le sud des États-Unis. C'est pas si mal de naître dans l'Alabama dans les années 40, sauf quand on est noir.
Ah oui,
mais... Et Lonnie, il est noir. Voilà. Mais bon, il était très bon élève, donc il a réussi à s'en sortir. Et il a fini par être embauché comme ingénieur à la NASA. Et un jour, au début des années 80, il faisait une expérience chez lui avec, pour la NASA, hein, avec un tuyau d'eau et de l'air. Et à un moment, ça a pété, ça a mis de l'eau partout. Et il s'est dit, ça ferait un super pistolet à eau, ça, pour les enfants.
Le mec, il a bossé pour la NASA.
Oui.
Il finit par inventer le super pistolet à eau. Je ne suis pas sûr que ce soit une belle histoire,
en
David.
En même temps, il a continué pour la NASA et en même temps, le soir, il inventait des trucs.
Ah, d'accord.
Et il a fabriqué tout seul un prototype de super soccer dont le fonctionnement est assez facile à comprendre. En fait, c'est vous pompez l'air dans un réservoir, hein, voilà, que je le fais un petit peu ici, où il y a un réservoir dans lequel il y a déjà de l'eau. L'air qu'il y a à l'intérieur du réservoir se compresse de plus en plus. Ah. Et ensuite, quand vous appuyez sur la gâchette, l'air comprimé pousse l'eau qui se trouve à l'intérieur par le canon et ça va super loin. Et voilà. Il a mis des années à trouver quelqu'un qui veuille bien le distribuer, Lonnie Johnson. Et puis, il a réussi. Et ça a été un succès immédiat et total, notamment grâce à des publicités à la télévision comme celle-ci, par exemple, en France en 1992. Souvenez-vous.
Super Soccer, son énorme réservoir, sa pompe qu'on arme pour la pression, des centaines de tirs à plus de 10 mètres. Super Soccer, c'est idéal.
Et il y avait en plus dans cette publicité où il faisait, c'est un peu comme un fusil à pompe, vous voyez.
Ah
il y avait
oui,
ce geste qu'on voyait dans les films, c'est le geste de Terminator aussi, donc c'était vraiment très très bien. Lonnie, il est devenu immensément riche et encore aujourd'hui à 71 ans, il a une entreprise qui développe des inventions dans le domaine de la thermodynamique, vous voyez, donc il a vraiment réussi sa vie. Il aide aussi des jeunes noirs américains à développer leur carrière dans l'ingénierie. Quant à nous tous autour de cette table, on a fait un sacré bout de chemin depuis 1992. Bon, Laura Lest, l'entreprise de Clémentine, a fermé en 1996, mais Clémentine a su rebondir.
Hein.
Image Plus, la chaîne de télévision d'Olivier, existe toujours, mais Olivier n'y travaille plus. Stéphane, vous êtes de nouveau sur Europe 1. Et Mathieu et moi, on a cessé d'être enfants. Ce que pour ma part, je regrette un petit peu parce que franchement, je crois que j'ai jamais retrouvé le niveau de bonheur de l'été 1992.
Faut quand même toujours jouer, même à nos âges. Avec et c'est quand même très, très réjouissant.
C'est très réjouissant. On s'en
lasse. Avec les enfants, pour y jouer avec les enfants.
C'est vrai, mais j'en ai pas. Mais...
Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de triste.
Mais on s'en lasse plus vite que quand on avait 10 ans. C'est ça que je veux. C'est qu'on fait 10 minutes et quand on a 10 ans, une après-midi entière avec le Super Soccer.
Regardez, par exemple, vous n'avez pas osé arroser Stéphane.
C'est vrai. C'est vrai.
Pas tellement la peur de Rosé Stéphane, c'est la peur de détériorer le studio.
Le
parce
studio,
que, tout
en
à l'heure dans la pub,
tu fais pas ça.
Voilà. On vous a dit, ça coûte très cher, donc exactement. Pas de conneries avec l'eau.
Merci
beaucoup, David.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et là, personne ne pourra me contredire, notre quotidien, quand on passe à table, c'est quand même une fourchette. Bah oui. D'où vient cette fourchette, Olivier Pouls, finalement ?
Eh bien, il est tout d'abord temps de tordre le cou à une légende qui prétend, depuis des décennies, que la fourchette aurait été inventée dans l'Empire byzantin et qu'elle serait arrivée en France grâce à Catherine de Médicis.
Comme à peu près tout.
Comme à peu près tout en gastronomie. On a prêté à Catherine de Médicis beaucoup, beaucoup d'inventions et toutes ne sont pas vérifiées. En tout cas, celle de la fourchette, on sait aujourd'hui, grâce aux recherches corroborées par les dernières trouvailles archéologiques, que l'histoire n'est pas la vraie et qu'il en existe une toute autre que je vais évidemment vous raconter. Alors, on sait désormais que la fourchette existait déjà sous l'Empire romain. Il s'agissait à l'époque d'une fourchette à deux dents qui était utilisée pour différentes choses, notamment pour tenir de la viande, mais aussi pour aider à la couper et pour transporter les mets du plat général à l'assiette. Donc il y avait plusieurs utilisations déjà de cette fourchette. Alors à la chute de l'Empire romain, la fourchette disparaît, bizarrement. Alors on la retrouve un peu plus tard, dans le Xe siècle, dans l'Empire sassanide, qui est un empire qui est l'équivalent de l'Empire perse, hein, et puis sur des peintures en Turquie qui attestent déjà de son utilisation dans une nouvelle manière de manger qui est assise autour d'une table. On sait que les Romains, eux, mangeaient
allongés.
Et donc, Xe siècle, on mange assis et on mange avec une fourchette. On est bien avant Catherine de Médicis, bien évidemment. Dès le XIe siècle, elle traverse l'Empire byzantin. Elle arrive évidemment en Italie, où on l'utilise essentiellement pour les pâtes, parce que c'est vrai que les pâtes, c'est pas facile à attraper, donc la fourchette est très précieuse. Alors, est-ce que Catherine de Médicis en avait dans ses valises en arrivant chez nous au XVIe siècle ? C'est possible, mais de toute façon, elle n'était certainement pas la première à s'en servir, puisqu'on sait aussi que déjà sous François Ier, il y avait une utilisation de la fourchette. En revanche, le fils de Catherine de Médicis, Henri III, a lui probablement largement contribué au développement de l'utilisation de la fourchette pour une raison que je vous laisse peut-être deviner.
Henri III aimait la fourchette, pourquoi ?
Eh oui, non, alors c'était une raison pratique.
C'est le couteau à cause des problèmes qu'il y avait avec le couteau ?
Non, tout simplement parce qu'à l'époque, la mode vestimentaire faisait que vous portiez
des fraises,
d'énormes collerettes. Ouais. Et la fourchette permettait de manger à peu près proprement
plus
avec ces énormes collerettes et de ne pas s'en foutre partout. Et
ils auraient pu enlever la collerette, tout simplement.
Oui, mais non, on a préféré. Ben voilà, tu perds le style. Ah,
ça devait être une galère.
Mais donc, probablement, Henri III a-t-il contribué au développement de l'utilisation de la fourchette. Alors, dès le XVIIe siècle, elle se popularise et devient vraiment un symbole de civilisation. On mange avec une fourchette, on est civilisé, alors que ceux qui mangent avec les doigts sont considérés comme des barbares.
Avec le couteau.
Voilà, ou avec le couteau. Les familles nobles font graver leurs armoiries au dos du manche de la fourchette. Et vous savez, une petite différence entre la France et l'Angleterre,
là aussi. C'est sur le devant ou derrière, ça dépend.
Alors, en France, c'est à l'arrière. Donc, la fourchette est présentée sur la table avec les dents vers la table ou vers la nappe. Alors qu'en Angleterre, c'est de l'autre sens. La fourchette est présentée vers le haut, parce que les armoiries, on les grave traditionnellement.
Amen. Moi, je mets la fourchette vers le haut, alors je ne sais pas.
Oui, ça respecte pas l'art de la table. Vous cachez vos armoiries.
Mais je cache mes armoiries, c'est
voilà,
pas...
On peut pas les voir.
Je suis vraiment bête, j'avais jamais pensé à ça.
Alors, à la Renaissance, évidemment, la fourchette devient très tendance, très populaire. On multiplie le nombre de fourchettes parce que ça va avec le développement des arts de la table. Et j'ai un petit jeu pour vous. J'ai fait une recherche, j'ai trouvé pas loin de 40 sortes de fourchettes différentes qui ont existé au fil des temps dans l'histoire de la cuisine. Alors, tout simplement, par exemple, la fourchette à pommes de terre. Vous savez ce que c'est, la fourchette à pommes de terre ?
Non, qu'est-ce que... Elle a trois dents.
Elle a trois dents, mais trois dents qui ne sont pas alignées.
Voilà, deux et une.
Exactement.
Ça sert à quoi ?
Ça sert à éplucher la pomme de terre et
sans
la casser.
Vous n'avez jamais ça dans les trucs à raclette, il y avait ça autrefois.
C'est très pratique parce que vous pouvez l'éplucher et ça ne casse pas la pomme de terre. Ah, c'est génial, oui. La fourchette à escargot, vous la connaissez, donc c'est une petite fourchette à deux dents simplement qui sont effilées de manière à pouvoir aller attraper l'escargot.
La fourchette à huître ?
La fourchette à huître, bien sûr. La fourchette à gâteau.
Oui, dont une des dents est légèrement plus biseautée pour pouvoir couper le gâteau.
Voilà, exactement. Trois dents, dont un côté, effectivement, un petit côté tranchant pour pouvoir couper le gâteau. La fourchette à poisson, évidemment, avec quatre dents, elle, qui est large et plate, mais elle est un peu plus petite que la fourchette de table. Alors voilà, il y a dans la bienséance gastronomique aujourd'hui, des dizaines de façons d'utiliser la fourchette, de les ranger. Et si vous voulez vraiment, mon cher Mathieu, avoir chez vous une collection complète de fourchettes, il faudra que vous fassiez de la place dans vos tiroirs, parce que voilà, il faut aller jusqu'à 40 types de fourchettes différentes.
J'oserais jamais vous recevoir à la maison.
Alors depuis maintenant, on a des fourchettes en bois, en plastique, ça, mais enfin bon, ça c'est autre chose.
Et bien, Merci Olivier pour toutes ces informations sur l'origine de la fourchette. On retrouve toutes vos recettes et toutes vos histoires sur les ustensiles sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Quand l'ami David Castello-Lopez se met à tapoter nerveusement sur la table, c'est que nous sommes partagés entre la peur et l'excitation. C'est l'heure, Stéphane, de la lutte finale.
C'est un quiz, vous le savez, qui oppose trois stars d'historiquement vôtre. Olivier Pouls, qui est gourmand comme Gérard Depardieu. David Castello-Lopez, c'est un peu notre Napoléon Bonaparte avec son fusil, enfin plutôt son pistolet à eau. Et Mathieu, c'est Michael Jackson. On a d'ailleurs la preuve, hein. On a la preuve sonore.
Mais ce qui se passe en antenne doit rester en antenne. Oui,
mais enfin, comme il fait vous, le moulin avec les mains.
Alors, Olivier, la première question est pour vous. Edwin Bird Budding était un ingénieur britannique au 19e siècle. Il a inventé la tondeuse à gazon et la clé à molette. Vrai ou faux ?
Ça me semble... Non. Et la tondeuse à gazon, bah, elles n'étaient évidemment pas électriques. C'est une tondeuse qui était complètement mécanique en 1800. Et des... Ah non, je pense que ça a été inventé comme un peu plus tard, ces premières tondeuses à gazon.
Donc vous dites...
Ouais, je dis non, je dis faux.
Si c'est vrai, pourtant.
Autre
particularité d'Edwin, il est né à Stroud et il est mort à Stroud, dans le sud-ouest de l'Angleterre.
Voilà.
Donc il y avait déjà des clés à molette. Il est né là où il est mort. Au 19e siècle. Ouais.
David, une autre question. Cet après-midi, vous savez, on s'intéresse beaucoup à Edwin. Edwin, c'est notre nouveau meilleur ami. Edwin Bird Budding, on le sait maintenant, a inventé la tondeuse à gazon et la clé à molette. Mais il a inventé quoi en premier ?
J'ai envie de dire qu'on va prendre le petit truc contre-intuitif. On va dire qu'il a inventé le truc le plus compliqué en premier. Donc la tondeuse à gazon en premier.
Bien, il a inventé la tondeuse à gazon en 1830, puis la clé à molette en 1835. Peut-être pour réparer la tondeuse à gazon. Voilà. C'est une des grandes énigmes de l'histoire jamais résolue. Mathieu, Joséphine de Beauharnais avait un carlin qui ne s'entendait pas du tout avec Napoléon. Vrai ou faux ?
Il s'entend. Alors soit il s'entendait en fait très bien.
Oui.
Soit c'était un berger allemand.
c'est ça. Mais je vois pas Joséphine avec un. Bon, je dirais vrai.
Oh. Il ne s'entendait pas du tout avec Napoléon. Il mordait les jambes de Napoléon quand il voulait entrer dans le lit de Joséphine. Alors, question qui départage. Il faut vous départager, David et vous, Mathieu.
Il le faut.
Donc, la réponse la plus proche remporte la lutte finale. L'année prochaine, on fêtera les 60 ans des Rolling Stones. Combien d'enfants a eu Mick Jagger ?
Oh, beaucoup. Moi, ma réponse, c'est beaucoup.
Beaucoup, c'est pas un chiffre.
Bon, alors, je vais dire 7.
7. Et vous ?
Moi, je dis 5.
C'est Mathieu qui gagne. Là.
Il a eu combien d'enfants ?
Il a eu 8 enfants.
Ah !
Chose étonnante, son dernier fils, vous le savez, est né en 2016, mais il a un arrière-petit-fils né en 2014. Il a donc un fils qui est 2 ans plus jeune que son arrière-petit-fils.
Non.
Oui.
Ça va loin, ça.
C'est drôle.
Oui.
J'aime beaucoup ce temps.
C'est les papy boomers.
Ça, c'est du fun fact.
Historiquement vôtre s'achève sur cette très très belle victoire aujourd'hui dans la lutte finale. C'était vraiment le point d'orgue d'une émission quasi parfaite. Stéphane, lequel de nos couples qui a remis le couvert vous a le plus ému ou excité ? Je ne sais pas, Frida Kahlo et Diego Rivera, Liz Taylor et Richard Burton ou J-Lo et Ben Affleck ?
Je ne sais pas, je les ai aimés tous les trois, mais j'aime bien Liz Taylor et Richard Burton.
Oh, ils sont magiques, ils sont indépassables, magiques. Je pense.
Indépassables, hein. Oui. Oui,
effectivement. Demain, une émission à ne pas manquer, puisque Stéphane nous livrera sa plus fameuse imitation, celle de Karl Lagerfeld.
Oui, Mathieu, je suis déjà tout ému. Rien que d'y penser, j'ai vraiment dans un état d'extase.
Nous aussi, Stéphane, on est dans un état d'extase. Mais j'imagine que même si c'est un prétexte pour faire l'étalage de votre talent, cette émission aura quand même un thème.
Mais bien sûr, Mathieu. Demain, on réunit trois personnages qui ont brouillé les pistes de leur propre. Karl Lagerfeld donc, mais aussi l'écrivaine Marguerite Duras et un monde à lire qui continue à le faire. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors vivement demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.